On est aujourd'hui le mercredi 8 février, on est le 15 Shvat, on est Toubi Shvat, et Toubi Shvat Sameach, et aujourd'hui le cours est pour la refoua totale et définitive de Esther Bat Yehudit et Tria Bat Esther. On continue notre cours et on termine aujourd'hui, et pour la refoua chez les mains évidemment de Rav Eliashiv. Et en tous les cas, on continue le cours et on termine cette semaine le cours sur David et on va essayer, Bezrat Hashem, de terminer alors qu'il y a encore énormément de notions. Et je reprends le résumé du cours d'hier. On a donc expliqué hier, finalement, que toute l'humanité et toutes les aménités, toutes les âmes se décomposaient, se divisaient en deux grandes catégories. Les âmes masculines qui sont chargées d'inspirer le monde et les âmes féminines qui sont chargées de réaliser l'inspiration, de réaliser la pensée, de réaliser le projet. Et donc d'une certaine manière, on pourrait dire que les âmes masculines sont encore célestes, en ce sens qu'à leur niveau, l'inspiration est encore d'une certaine manière théorique, mais il faut arriver à faire descendre l'inspiration et l'habiller et la faire rentrer dans les réceptacles de ce monde, et les réceptacles de ce monde sont féminins, sont terrestres, et c'est le monde de la réalisation. On avait donc expliqué hier que chacun d'entre nous a soit une âme masculine, soit une âme féminine. Le problème, c'est que comme on l'a dit hier aussi, la grande, grande majorité des humains ne savent pas ce qu'ils sont parce que tout simplement ils n'ont pas dévoilé leur âme et donc ils passent complètement à côté de leur mission. Mais à partir du moment où un homme dévoile son âme, il va tout de suite voir ou plus ou moins rapidement voir s'il appartient à une dimension masculine, un homme d'idées, un homme de pensée, un homme de savoir, ou s'il appartient à la dimension féminine, un homme d'action, un homme de réalisation, un homme terrestre, un homme concret. Alors on a commencé à expliquer hier que finalement, le soleil a forcément rendez-vous avec la lune, le soleil étant bien sûr l'âme masculine, la lune étant l'âme féminine comme on va revoir aujourd'hui, puisque la lune est inspirée, éclairée par le soleil, et tout le problème c'est que ce zivoug, cette rencontre entre la dimension masculine et féminine est extrêmement difficile, comme on va continuer à l'expliquer, et c'est le secret véritable de toutes les disputes célèbres entre les fameux frères de toute l'histoire biblique. Comme j'ai expliqué hier, Caïn était une âme masculine. Il a refusé, on pourrait dire, d'inspirer Abel, qui était l'âme... C'est l'inverse dans ce cas-là, pardon. Abel était l'âme masculine qui a refusé d'inspirer Caïn, qui était l'âme féminine. Caïn a tué Abel. Dans ce sens-là, comme on l'a déjà sous-entendu dans les différents cours, c'est pas forcément toujours le masculin qui oppresse le féminin ou qui veut s'en débarrasser ou s'en débarrasse. Ça peut être des fois le contraire, comme on va le revoir encore aujourd'hui. Mais donc, il y a eu un conflit entre la dimension masculine et féminine. Après, à nouveau, entre Yitzhak et Ishmael, l'un était masculin, l'autre était féminin. Bien sûr, Esav et Yaakov, on a expliqué hier que là aussi, c'est la raison pour laquelle Yaakov va prendre le droit d'aînesse, la Bechora, à Esav, parce que Esav refusait de jouer son rôle d'inspirateur. Et donc, automatiquement, Yaakov lui a pris cette force dont il avait besoin. Et on en arrive, et c'est ce que l'on va expliquer un peu plus aujourd'hui, à Yehuda et Yosef. Yosef étant fondamentalement masculin, vous inclinez devant moi, je suis la source d'inspiration, et Yehuda étant essentiellement féminin. Et il y a eu tous les tikkunim dont on a déjà parlé, Moshe, Aaron, Ephraim, Ménaché, on ne peut pas tout répéter, Peretz, Zerah, et on en arrive à notre cours qui est encore une fois Jonathan et David. Ici l'image est très claire, bien qu'on va bien sûr la prouver. Jonathan est l'âme masculine et David est l'âme féminine. C'est-à-dire que dans cette union parfaite, enfin réalisée, on pourrait dire que c'est le premier couple spirituel parfait, qui est une préfiguration de ce que deviendra véritablement le dernier des couples parfaits, qui sera en vérité le véritable premier, en ce sens que la perfection sera tellement énorme qu'elle va permettre la délivrance du monde. C'est le fameux couple masculin-féminin, Mashiach ben Yosef masculin, Mashiach ben David féminin. Mais la préfiguration, on pourrait dire l'atome, ou La graine de cette perfection a déjà été plantée dans le monde depuis cette rencontre fabuleuse entre Yonatan, l'âme masculine, Mashiach ben Yosef, et David, l'âme féminine, Mashiach ben David. Alors, on avait commencé à expliquer hier que finalement, quel est donc le travail de chacun ? L'un inspire et l'autre réalise. On a expliqué que finalement la rencontre entre les deux sur le plan spirituel est aussi une forme de zivoug, une forme d'union masculin-féminin, de la même manière que l'homme dépose dans la matrice féminine une graine qui va permettre à la matrice féminine, à la femme, de réaliser le projet qui est de transformer la graine en être vivant. Exactement de la manière sur le plan spirituel, l'âme masculine doit déposer une graine spirituelle à l'intérieur de la matrice féminine qui est la force de la réalisation, et donc c'est grâce à la réception de cette graine que finalement il va pouvoir y avoir réception, il va pouvoir y avoir réalisation. On a expliqué que fondamentalement le Ari HaKadosh révélait, et d'abord le Zohar, qu'il y avait ce qu'on appelle Shalosh Tipe Mohin, ou les trois gouttes de lumière, c'est-à-dire que la graine n'est pas en vérité une seule graine, mais sont trois gouttes de lumière, à titre, on pourrait dire, tout à fait intéressant. Quelqu'un a écrit hier sur ce cours, qui est sur le site, le cours d'hier, que ce qui est intéressant, c'est qu'on avait découvert, maintenant dans les découvertes les plus avancées de la science, qu'à l'intérieur de l'atome, la partie en tout cas qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, la plus intérieure, qui apparemment on ne peut plus aller plus loin que ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, peu importe, mais la partie la plus intérieure de l'atome, c'était trois forces qu'on appelait les quarts, les trois quarts. Et ça ressemblait donc, dit-il, exactement à ce que nos maîtres connaissaient depuis des siècles, voire des millénaires, comme quoi il y a au départ trois gouttes de lumière qui sont l'inspiration fondamentale qui est déversée dans la matrice du monde. Je vais faire la parenthèse. Donc, ça semble être extraordinaire de voir comment dans la nature elle-même, on retrouve ces notions fondamentales que les maîtres d'Israël connaissaient depuis toujours. En tous les cas, on revient maintenant à cette notion. L'âme masculine doit déverser trois gouttes de lumière qui va donc féconder et rendre enceinte pour permettre la réalisation la matrice féminine. Ces trois gouttes de lumière sont les trois cerveaux, on l'avait expliqué hier. Un cerveau, c'est ce que je suis. Un autre cerveau, c'est ce que tu es. Et le troisième cerveau, comment on est ensemble. C'est bien dit, c'est facile à dire. Parce que si je n'ai que la goutte de ce que je suis, automatiquement, je ne peux pas laisser de place à l'autre. Si je n'ai que la goutte de ce que tu es, automatiquement, je m'assimile, je perds mon identité, je ne suis plus rien. Et donc il faut les deux, ce qui permet l'affirmation de soi dans la tolérance absolue. Ce qui est le principe de l'unité, le Bayom Ahou Yahashem Echad, dans ce jour Dieu sera un. Donc le problème est, c'est qu'il faut donc que l'âme masculine trouve son âme féminine dans laquelle elle va pouvoir déverser ses trois gouttes, de manière à ce que ces trois gouttes de lumière, réceptionnées par la matrice féminine, vont pouvoir lui permettre de réaliser le projet sur Terre. Maintenant, pourquoi il y a conflit entre ces deux âmes? Pourquoi Caïn et Abel ne se supportaient pas? Pourquoi Yitzhak et Ishmael ne se supportaient pas? Pourquoi Esav et Jacob ne se supportaient pas? Pourquoi, surtout ce qui nous intéresse, nous, Yosef et Yehuda ne se supportaient pas? Et comment Yonatan et David ont fait pour faire le tikkun de tous ces « je ne vous supporte pas » Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, expliquons le Shoresh, la racine du problème qui est fantastique. Chacun des deux a un problème qui l'amène à refuser l'autre. La dimension masculine sait qu'à partir du moment où elle va remplir sa mission de déverser son inspiration dans la matrice féminine, elle aura joué son rôle et le rôle joué va se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que finalement, si la matrice féminine arrive à réaliser, qui c'est qui va monter sur le podium et qui c'est qui va être considéré comme étant le héros de cette histoire-là? Celui qui a réalisé. Parce que dans ce monde, l'honneur, les honneurs reviennent au réalisateur et non à l'inspirateur. Donnons un exemple extrêmement... Non, l'exemple n'est pas forcément aussi évident, mais peu importe. En tous les cas, c'est ce à quoi nos maîtres font allusion dans le Talmud lorsqu'ils disent « En a mitzvah nikret ela al shem gomra ». Le bien ne porte le nom que de celui qui l'a réalisé. Et non, disent nos maîtres, de celui qui l'a pensé, ni même, disent nos maîtres, de celui qui l'a commencé, mais seulement du nom de celui qui l'a terminé. Et d'où le savent-ils ? Il rapporte une preuve extraordinaire au sujet, figurez-vous, de l'enterrement de Yosef à Shrem. Nous savons que c'est Moshe qui a trouvé les ossements de Yosef, c'est Moshe qui a tout fait pour emporter avec lui les ossements de Yosef, comme la Torah le dit clairement. Nos maîtres mettent en évidence qu'au moment où tout Israël s'occupait de ses propres problèmes personnels, de se préparer au départ, Moshe, une fois de plus, comme toujours, ne s'occupait ni de lui, ni de sa femme, ni de ses enfants, mais s'occupait de ce qui est bon pour le Ham Israël, et donc s'occupait de trouver les ossements de Yosef, parce que sans ces ossements-là, d'abord, on ne pouvait pas sortir parce qu'on avait juré de le sortir avec nous, et en plus, Yosef, Moshe savait que cette présence de Yosef serait salutaire pour tout ce qui allait venir après. Donc lui s'occupe de trouver les ossements de Yosef. Ça n'a pas été facile, vous connaissez notre tradition. Les pharaons avaient caché Yosef pour empêcher la délivrance, car ils savaient qu'il y avait une promesse faite et que sans lui on ne sortirait pas. Il fait des pieds et des mains, Bekitsu, au dernier moment, il le trouve et on sort avec. Et finalement, c'est à côté de Moshe que vont se trouver les ossements de Yosef pendant 40 ans. Et voilà que Moshe ne rentre pas en Israël, écoutez bien, et donc forcément c'est Yehoshua qui va enterrer Yosef à Shrem. Et voilà que lorsque Yehoshua enterre Yosef à Shrem, il est dit, Yehoshua ou les enfants d'Israël ont enterré à Shrem les ossements de Yosef qu'ils avaient sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi qu'ils avaient sortis d'Égypte? Et comme Moshe n'est pas mentionné, que Moshe avait sorti d'Égypte. Pourquoi qu'ils avaient sorti d'Égypte? Où est Moshe qui a tout fait? Ou presque? Nos maîtres disent, de là tu apprends que en la mitzvah nikret et la alchem gomra. La mitzvah c'était d'enterrer. Tant qu'il n'est pas enterré, la mitzvah n'a pas encore été faite. Bien que sans Moshe, elle n'aurait jamais pu être faite. Dans la mesure où c'est pas lui qui a terminé, celui qui reçoit la gloire, c'est celui qui termine. Donc on voit qu'à ce niveau-là, Torah est intransigeante. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans un monde de pensée, nous vivons dans un monde d'action. Et seulement celui qui termine et réalise mérite le nom de réussite. C'est comme ça. Ça fait mal pour tous les penseurs, pour tous les parleurs, pour tous les rêveurs, mais le monde est entre les mains des réalisateurs, non des penseurs. Donc, c'est pour ça que la dimension masculine a un problème. Parce que d'un côté, elle sait que sans elle, il n'y aura rien. Ça passe par elle, parce que c'est elle qui apporte les trois gouttes. Mais d'un autre côté, si elle fait son travail, elle va se retrouver après être mise dans l'ombre. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Comment donner en sachant que je ne serai pas celui qui va récolter? Ce cours est providentiel à Tu Bishvat aujourd'hui. Je vous invite à regarder un cours qu'on a donné hier, qui se trouve sur le site aussi, sur le secret de Tu Bishvat. Mais en prenant un micron, un milliardème de gouttes de ce qui a été dit hier, j'ai fait remarquer dans le cours d'hier que l'arbre était une créature incroyable, la seule de toutes les créatures créées qui n'existe que pour donner quelque chose dont il ne profitera jamais, le fruit. Parce que même si avec les fruits et leurs noyaux, on peut créer d'autres arbres, mais cet arbre-là qui a donné ces fruits-là, lui n'en retire rien. J'ai donné un exemple. Même les parents font des enfants, mais ils en tirent quelque chose. L'amour, les services, etc. Il n'y a pas de don gratuit dans l'existence. Ça n'existe pas. Sauf un cas, l'arbre. Un don gratuit. Lui, en tant que tel, ne retire rien de ça. Et c'est pour ça que l'homme est appelé un arbre des champs, comme pour montrer que Adam, l'homme véritable, est celui qui est capable, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, de faire quelque chose de véritablement gratuit. Le Baal Shem Tov disait que si un homme est descendu sur terre, ne serait-ce que, et vit 120 ans, ne serait-ce que pour une seule fois dans sa vie être capable de faire quelque chose de gratuit parce que c'est bien, un point c'est tout, ça justifie 120 ans de vie sur terre, parce que c'est tellement difficile d'y arriver. Ça c'est l'arbre. Donc, d'une certaine manière, on demande à l'homme, l'homme véritable, et c'est pour ça qu'on en trouve si peu, d'être comme un arbre. Je vais donner quelque chose, mais finalement, quand il y aura après remerciement et récompense, où je serai moi? C'est pas moi qui monte sur le podium. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi tous les hommes spirituels de l'histoire biblique ont eu tellement de mal jusqu'à refuser de servir de donneur et de laisser après la matrice féminine avoir les honneurs. C'est pas évident. Mais d'un autre côté, et là c'est le pélé d'aujourd'hui, écoutez-moi bien parce qu'il y a énormément de choses aujourd'hui à voir. La dimension féminine aussi a un problème qu'on va déchiffrer très facilement. Et vous allez voir comment d'ailleurs nos maîtres en parlent. Elle se dit, ou elle ressent, puisque fondamentalement c'est moi l'essentiel, puisque c'est moi le réalisateur, d'accord ? Donc automatiquement, qu'est-ce que j'ai besoin de passer par lui ? Je vais m'auto-financer, je vais m'auto-gérer. Celui qui se sent d'une certaine manière l'essentiel a beaucoup de mal à accepter que le point de départ doit venir d'un autre. Et qu'il n'est pas le maître du point de départ, il n'est pas le maître du commencement. Parce que celui qui se sent être presque tout voudrait être tout à fait tout. Et donc c'est très difficile pour celui qui est le réalisateur et qui est émet l'essentiel de se dire oui mais sans l'autre je ne suis rien, sans la source. Vous comprenez toute la problématique qu'il y a derrière. Évidemment je vous ai déjà habitué à partir d'une phrase de deviner tout ce que l'on peut construire. Mais on ne peut pas tout expliquer ou tout rappeler. En tous les cas, ça c'est le problème. Et donc, ce qui veut dire qu'on va trouver dans l'histoire, et on va le démontrer facilement aujourd'hui, comme quoi le problème n'est pas forcément venu du masculin, mais du féminin. Exemple que je vais reprendre dans quelques minutes, dans le conflit entre Yosef et Yehuda, qui fout tout en l'air ? Yosef ou Yehuda ? Yehuda. Bon, Yosef a été un petit peu provocateur, c'est vrai. Ça veut dire qu'il s'est vraiment imposé comme un mâle. Donc, avec un mal, avec E-S. Avec E-S. Donc, il a mal fait. Mais d'un autre côté, celui qui a décidé de s'en débarrasser, de le vendre, etc., etc., celui qui a monté tous les frères contre lui, c'était Yehuda, la dimension féminine. Pourquoi ? Quoi ? On doit passer par toi ? Attends, c'est moi le roi et on passe par toi ? Mais c'est ça tout le discours que j'explique. Donnons un autre exemple, avant de décoder plus profondément encore. Prenons un exemple extrêmement proche de nous. Dans notre monde moderne, dans notre petite société ici, très bien, il y a ce qu'on appelle le monde de la Torah, et il y a ce qu'on appelle le monde de la réalisation. Ceux qui sont à la tête de l'économie, de l'armée, du pays, du ménage, de toutes les institutions qui font vivre le pays. C'est extrêmement difficile, voire presque impossible, et surtout très douloureux, puisqu'on le vit tous les jours, pour la dimension féminine, ceux qui réalisent concrètement et qui tiennent entre leurs mains le pays et la société, c'est très difficile pour eux de reconnaître que leur inspiration devrait être plus spirituelle qu'elle ne l'est. Et finalement, d'accepter de reconnaître que les véritables, et il y en a très peu, mais les véritables maîtres d'Israël devraient être la source première, la source d'inspiration de toutes les institutions en Israël. Et ça irait beaucoup mieux pour tout le monde. C'est très difficile, attends, je ne comprends pas. Attends, moi je suis chef d'armée, moi je suis chef de banque, moi je suis chef d'État, moi je suis chef de telle institution et je dois reconnaître que mon inspiration vient de... Comment c'est possible ? C'est pas facile. Dans un exemple encore beaucoup, beaucoup plus simple, c'est plus ou moins ce qui se réalise, c'est intéressant parce que là c'est plus ou moins ce qui se réalise, dans un gouvernement bien fait où on retrouve le même problème. Combien de fois je vous ai dit que normalement, les conseillers d'un président sont en principe beaucoup plus intelligents que lui, sur le plan purement intellectuel. Mais donc c'est eux qui sont conseillers, puisqu'on leur demande, comme un président qui, on peut dire, saint d'esprit, lorsqu'il a véritablement une décision très grave à prendre, eh ben, va s'entretenir avec le conseiller qui est préposé dans ce domaine-là, le militaire, l'économique, le social, etc. Et si c'est un président qui a compris comment les choses doivent fonctionner, eh ben, on souhaite tous que s'il a fait un bon choix dans tel ou tel conseiller, qu'il écoute ce que son conseiller lui dit. Et si la décision est bonne et que tout le peuple est content, qui va être applaudi ? Le conseiller ? On ne sait même pas qu'il existe généralement. On n'est même pas censé savoir qui il est. Bon, on le sait parce qu'aujourd'hui on sait tout. Mais ce n'est pas le problème. Qui va être réélu ? Qui va être récompensé ? Le président. Donc le conseiller peut très bien se dire, attends, mince alors. Il a fait quand même petit tout ce que je lui ai dit de faire et maintenant c'est lui le héros ? Non, et bien le conseiller a tort. Pourquoi il a tort le conseiller ? Parce que c'est normal que ça fonctionne comme ça. Parce que tout conseiller que tu es, si toi tu avais les rênes du pouvoir, tu nous amènerais tous dans un abîme. Pourquoi ? Parce que les intellos sont absolument incapables de diriger le monde. Heureusement qu'ils ne le dirigent pas. Parce que de temps en temps, quand on laisse un intello parler, regardez ce qui s'est passé en Libye. Vous comprenez ? Donc, Et ce qu'on nous dit même plus ce qui se passe en ce moment, parce que si on savait ce qui se passe en ce moment, au moment où on parle, à qu'il est loin le bon Kadhafi par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les règlements de compte et les... Mais l'intello a parlé, on a laissé l'intello diriger, voilà la catastrophe. Peu importe. Donc heureusement que ce n'est pas des intellos qui dirigent le monde, parce que ce sont des fous furieux ces gens-là. Donc il faut que ça passe après par un homme qui a les pieds sur terre, un réalisateur. Donc comme toute la difficulté, c'est pas seulement l'idée, mais c'est la réalisation de l'idée, c'est normal que finalement ce soit le président qui reçoive les honneurs. Parce que c'est lui qui prend les risques de faire descendre l'idée dans la réalité. On termine, on fait la parenthèse. Donc quoi? Il y a le problème, encore une fois, d'un côté, il y a le problème de l'autre. Puisque le président, puisque le réalisateur est celui qui, comme je viens de dire, prend le risque, et d'une certaine manière réalise ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire influencer, changer, agir dans le monde, changer le monde et agir dans le monde, c'est donc normal que lui pourrait très bien se dire « Mais qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de tous ces intellos autour de moi, ou de tous ces rabbins, ou de tous ces etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire, eux, qui restent dans leur synagogue, qui restent dans leur église, qui restent dans leur tour d'ivoire, dans leur maison d'études, peu importe. Qu'est-ce qu'ils y comprennent à la vie ?» Et donc, c'est pas évident pour la dimension féminine de se plier à la dimension masculine. C'est ce que nos maîtres disent, dans leur langage hyper codé. Et je regrette presque de faire le décodage aujourd'hui, parce que pourquoi le jeter comme ça à tout vent? Ils nous disent qu'au début de la création, la lune s'est plainte devant Hachem, elle a fait un kitroug selon le langage codé des maîtres, et elle a dit... Pourquoi je devrais partager le pouvoir avec le soleil? C'est ou lui ou moi? Et Hachem lui a répondu, eh bien, puisque c'est toi qui viens te plaindre, eh bien, va-toi te diminuer. On va décoder dans quelques instants qu'est-ce que signifie va-toi te diminuer. Va-toi te diminuer. Comme ça, vous ne serez pas au même niveau et tu ne te plaindras plus. Puisqu'il y aura, d'une manière évidente, un plus que l'autre. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Ils veulent nous faire comprendre, et ça, c'est absolument incroyable, que dans ce conflit entre l'inspirateur et le réalisateur, le soleil qui donne la lumière et la lune qui la reçoit et qui éclaire la terre, la nuit, finalement, celui qui souvent pose le plus de problèmes, c'est pas l'homme, mais c'est la femme. C'est-à-dire, c'est pas la dimension masculine, c'est la dimension féminine. Et c'est compréhensible pourquoi? Parce que si on traduit dimension féminine par la dimension, c'est ça le paradoxe, virile qui travaille sur terre et qui fait tout, on comprend que la dimension virile active n'accepte pas de se soumettre aux penseurs qui se prétendent être les sources d'inspiration de la réalisation future. C'est ce à quoi font les nos maîtres lorsqu'ils disent que la lune a râlé. La lune a dit, mais pourquoi je dois partager le pouvoir avec le soleil? Pourquoi je dois reconnaître que j'ai besoin de lui? Qu'il aille éclairer le diable. Je veux ma propre lumière. Je veux être à la fois mon propre inspirateur et ma propre lumière. Traduit en français, un dictateur. Ou quelque chose qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire celui qui croit qu'il peut tout décider, comprendre, penser jusqu'à la réalisation. C'est ça le problème. Hachem dit à la lune, c'est comme ça, eh bien va te diminuer. On va voir dans notre langage à nous décoder ce que cela signifie. Donc maintenant vous comprenez mes amis, pourquoi le vrai grand conflit qui est le symbole de ce type de conflit à l'intérieur du peuple juif, qui est le conflit entre Yehuda et Yosef, oppose la dimension masculine Yehuda à la dimension masculine Yosef à la dimension féminine Yehuda, mais ici, le pélé est que ce n'est pas l'homme qui veut écraser la femme, mais la femme qui veut écraser l'homme. Yehuda qui vient chez Yosef lui dit quoi? Amachol timchlol banu, amalor timlor banu. Quoi, toi tu vas régner sur nous? Toi tu veux. Mais qui tu es, toi? D'où tu sors? Retourne dans la maison d'études, va étudier avec papa, va espèce d'intello. Et c'est exactement ce qu'il faisait Yosef. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Il passait son temps à étudier avec son père. Yehuda, qui est l'homme du terrain, qui est le roi, qui est le lion, qui est celui qui garde toute la tribu, il voit la petite brebis arriver là avec son col blanc et ses diplômes, il dit, mais pourquoi tu prends quoi? Mais retourne chez papa, va étudier. Mais ça veut dire quoi? Il dit, non, j'ai rêvé que vous êtes tous en train de vous incliner devant moi. Tzadik yesod olam. Tout part à partir, tout démarre, pardon, à partir du tzaddik, qui est la source d'inspiration, le juste fondamental qui inspire le monde. Vous ne voulez pas en connaître cette source-là, vous allez vous écrouler. Effectivement, Yehuda ne se laisse pas faire, il dit, c'est moi le roi, c'est moi qui porte la jupe, et pas le pantalon, puisqu'il est féminin. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est le premier Écossais de l'histoire, parce que c'est un porteur de jus viril. Et donc, et c'est vrai que les Écossais sont extrêmement, en ce sens-là, viril, c'est un paradoxe, c'est un pélé. J'ai beaucoup réfléchi sur la notion. Comment se fait-il que le peuple qu'on considère, surtout l'Écossais américain, chaque fois que vous voyez un film de mafia, machin, etc., les gros tueurs, les gros casseurs, c'est toujours des Américains d'origine écossaise. Et pourtant, des porteurs de jupes. À mon niveau, je comprends. Il y a ici un décodage absolument incroyable.
C'est ma parce que la Torah, Simlot Milchama.
Et Nahon, qu'on peut traduire bien que Nahon, Simla veut dire jupe, mais veut dire aussi un habit, tout simplement. C'est à ça qui fait allusion. Mais en vérité, la raison est, c'est parce que, comme je dis souvent, la providence se sert de ce monde pour nous envoyer des messages. Et ceux qui servent à ce message ne se rendent même pas compte ce dont à quoi ils servent. Et donc justement, la nature, on pourrait dire forte, virile, très très mec de l'Écossais, et qui paradoxalement porte une jupe, veut nous montrer que justement la véritable dimension féminine n'est pas si pas virile qu'on le pense. Parce que dans nos textes à nous, la dimension d'Afka, de la virilité, de la force, s'appelle une dimension féminine dans nos textes à nous. Ça, le Péléplaïm, c'est pour ça que quand un juif qui connaît la Torah entend parler du sexe faible, il comprend vraiment que le monde n'a rien compris. Ça veut dire que les hommes, ces hommes-là, ont fait de la femme un sexe faible. Mais dans notre conscience et notre compréhension à nous des choses, Dafka, c'est le contraire. La femme représente Béhémet, le sexe fort, et certainement pas le sexe faible. On ferme la parenthèse. En tous les cas, Yehuda n'accepte pas de recevoir son inspiration de Yosef. Il vend Yosef, il se débarrasse de Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après la vente de Yosef, qu'est-ce que dit la Torah? Vayered Yehuda. Yehuda se casse la figure. Il est tombé. Et il se retrouve avec une prostituée. Pourquoi? Une femme qu'il pense être. Ça veut dire quoi? La Torah ne fait pas de cadeau. Toi le roi, toi le mec, toi le faiseur et le réalisateur, tu penses t'en sortir tout seul? Tu refuses la notion de tzaddik, d'inspirateur? Tu vas voir où tu vas arriver. Vayered Yehuda met Echav, il a dégringolé, il s'est cassé la figure. Donc il n'y a pas de salut pour le féminin sans l'inspiration masculine. Donc on comprend que chacun a une raison de se révolter. Le masculin ne veut pas du féminin, et c'est certains conflits dont parle la Torah, parce que le masculin dit « Pourquoi je vais lui donner à elle, celle qui va monter sur le podium ?» Et le féminin ne veut pas du masculin, pourquoi? Parce que le féminin se dit « Puisque c'est moi le Icar, pourquoi j'ai besoin de lui ?» Et on comprend pourquoi ça ne marche pas. Toute la Torah, mes amis, ne parle pratiquement que de ce problème-là. Et quand on arrive enfin à Jonathan et à David, on dit « Merci, maître du monde. » Enfin, on voit que c'est possible. Un vrai gars, Jonathan, une âme masculine, comme rarement il y a eu sur terre, c'est ce qu'on le verra dans cette louange incroyable que David va dire à son sujet au moment de sa mort, qu'il l'appelle le Gibor, le héros, le soldat d'Israël, une âme masculine absolument incroyable, et l'âme féminine bien sûr, c'est David, le roi, le futur, le réalisateur, et voilà que ces deux âmes se rencontrent enfin, et cette fois-ci pour faire le shalom. Et on va décoder des textes qui sont fabuleux ensemble. On n'a même pas encore commencé le cours. Et vous allez voir des merveilles dans le texte. Comment lire notre Torah. Comment les maîtres d'Israël ont des clés inimaginables. Et vous allez voir qu'est-ce que devient la Torah lorsqu'elle est entre les mains et à l'intérieur de la bouche d'un juif. Et donc, c'est ça le secret de cette rencontre. On va maintenant assister, en déchiffrant les versets, à ce qui s'est passé dans le secret de cette rencontre, comment Jonathan a enfin résolu le problème, comment David a enfin résolu le problème, dit d'une autre manière, comment la dimension masculine a enfin décidé de tout donner à la dimension féminine, en sachant qu'elle allait tout perdre, et Jonathan a tout perdu en donnant à David, car il a perdu la royauté jusqu'à perdre sa propre vie, en donnant à David, il a signé son arrêt de mort, parce qu'il savait qu'à partir du moment où il a terminé sa mission, le monde n'a plus besoin de lui. C'est le fameux secret auquel nos maîtres font allusion lorsqu'ils disent que le Mashiach Ben Yosef va mourir. Vous entendez ce que je vous dis? Vous ne l'avez encore jamais entendu. Notre tradition qui rapporte que le Mashiach Ben Yosef mourra. Mais pourquoi va-t-il mourir le pauvre? La préfiguration, c'est Jonathan, qui une fois qu'il a terminé sa mission, on va montrer comment, il ne lui reste que plus que quelques mois à vivre. Il va tomber au combat. Et ils le savent tous les deux. C'est pour ça qu'ils vont se séparer dans les larmes. Ils vont pleurer pendant des heures, l'un dans les bras de l'autre, parce qu'ils savent qu'ils ne se reverront plus jamais. David sait ce qu'il doit à Jonathan. Jonathan a terminé la mission de toutes ses âmes rebelles. Avec Jonathan s'arrête enfin cette lutte entre ces âmes qui refusent de se donner l'une à l'autre. David reçoit, et David dit au revoir à Jonathan, lui dit « On ne se reverra plus que dans quelques siècles. Toi et moi, on reviendra. Sortez les mouchoirs. » Et quand reviendra-t-on, toi et moi? Tu reviendras à nouveau, toi, Jonathan. Tu seras ma chère Ben Yosef. Et moi, je reviendrai à nouveau. Moi, David, je serai ma chère Ben David. Et ensemble, on terminera le travail que nous avons commencé aujourd'hui. Mais pendant des siècles, on va plus se voir. Et ils se mettent à pleurer l'un dans les bras de l'autre. Avec un mystère incroyable que je vais décoder dans quelques minutes. On va maintenant reprendre ce texte. Et on va lire quelques passages. Et on va reprendre le décodage avec l'aide du maître du monde, un décodage absolument fabuleux qui fait véritablement partie des dévoilements de juste avant la délivrance. On se rappelle donc que David veut tester Shaoul, ou plutôt veut prouver à Jonathan qu'avec Shaoul c'est fini, et il va le tester sur Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh? On avait commencé à expliquer. Rosh Chodesh, c'est une fête lunaire, puisque c'est le nouveau mois. On va lire ce qui se passe, on l'a déjà lu, mais cette fois-ci pour rentrer en profondeur. Vayomer David el Yonatan, David dit à Yonatan, Ine Chodesh Machar, demain c'est Rosh Chodesh, Vanochi Yeshev, et j'ai l'habitude d'être avec le roi, je traduis tout de suite, et je vais me cacher pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'il y avait ce mois-là, le mois choisi pour être un mois de test, 2 jours de Rosh Chodesh. Et vous allez voir ô combien c'est significatif, quel secret incroyable se cache dans le fait que David a choisi pour tester Shaoul un mois lunaire où il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Ça veut dire que le nouveau mois, la Itrachut, le renouvellement de la lune, se fait sur 48 heures, 2 jours. Je vais expliquer, donc, bien sûr, quand on... Et il dit, « In pakod yifkedeni avira » Si ton père cherche où je suis, tu lui diras que j'ai demandé l'autorisation de partir dans ma famille. Ça, c'est le cours de la semaine dernière. Très bien. Après, il y a tout un échange entre Jonathan et David. On l'avait déjà lu. Et Jonathan et David demandent, mais comment tu me feras savoir ce que ton père a dit lorsqu'il a vu que je n'étais pas là? Et Jonathan met en place un stratège qui est un secret absolument incroyable. Il lui dit, regarde. Là où tu vas te cacher aujourd'hui, 3 jours avant que je revienne, tu vas attendre. Et moi, je reviendrai avec mon porteur d'armes. Et je lancerai 3 flèches en ta direction. Si les flèches, je les envoie volontairement très loin, de manière à ce que quand mon porteur d'armes les cherchera, je lui dirai « continue encore », tu m'entendras lui dire « continue encore, elles sont encore en avance ». De là, tu comprendras que, pour l'instant, impossible de revenir au palais, Shaoul veut te tuer. Et si les flèches, volontairement, je ne les jette pas très loin, alors, et que je lui dis à mon porteur d'armes, reviens en arrière, tu les as déjà dépassées, ça sera un signe, toi aussi, tu peux revenir au palais. Donc, soit tu dois t'éloigner, on comprend le signe, soit tu peux revenir. Mais la question est, pourquoi 3 flèches? Et pourquoi pas lui dire carrément? Pourquoi 3 flèches? Pourquoi pas lui dire carrément? Première question. On continue encore un petit peu. Shaoul, David, et après Shaoul lui dit la chose suivante. Vayomer lo Yonatan, Jonathan lui dit la chose suivante. Il lui dit Jonathan, il continue donc à mettre en point, au point le test. Il lui dit, Macha Chodesh, il recommence, il lui dit Macha Chodesh, alors qu'on vient de le dire, évidemment, Macha Chodesh. David lui a déjà dit Macha Chodesh, demain c'est Rosh Chodesh. Il dit Macha Chodesh, mais il va changer un petit peu la formulation et il dit, Venif Kadeta, ki yipaked Moshavecha. David avait dit, Imi Paked, si jamais ton père pose la question où je suis, ce qui suppose que David sous-entend que peut-être le père ne va même pas le remarquer, ou s'il le remarque, il n'en fera pas un plat, il va laisser tomber. Jonathan est affirmatif, il dit, Venifkadeta. Oui, tu vas être remarqué. C'est pas la bonne traduction, je le fais exprès. Ki paket moshavecha. Et il lui dit après, Veshilashta. Tiens, on revoit le 3. Veshilashta tered meod. Tous les commentaires se cassent la tête pour comprendre. C'est-à-dire, Veshilashta tered meod motamo. Et les 3 descendront beaucoup. Alors, les commentaires n'arrivent pas, parce qu'ils arrivent, ils savent ce que je vais dire, mais ils veulent respecter mot à mot le texte, et ils disent, Veshilacha, ça veut dire Thérèse, c'est-à-dire dans 3 jours, je reviendrai vers toi. Puisque effectivement, 2 jours de Rosh Chodesh, et le 3e jour, je reviens vers toi. Mais en vérité, le verset mot à mot, Veshilacha, Thérèse, Mehot, signifie, le 3 descendra beaucoup. C'est qui le 3 ? On voit qu'on joue beaucoup avec le concept du 3. Il y a 2 jours de Rosh Chodesh, je reviens dans 3 jours. Pour te faire savoir ce qui se passe, je t'envoie 3 flèches. Pourquoi décide-t-il d'envoyer 3 flèches ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas une seule ? Tous les commentaires posent la question. Et s'il avait envoyé une seule flèche ? Loin signifie va-t'en, proche signifie reviens. Pourquoi 3 flèches ? Là, la question est le plus fort. Tout le monde comprend que les 3 flèches désignent forcément quelque chose. Et pourquoi ce concept du 3 à chaque fois ? Mais j'ai pas fini. Finalement donc, après, Yonatan va chez Shaoul. Shaoul, le 2e jour de Rosh Chodesh, le 2e jour, pas le 1er, le 2e jour remarque l'absence de David, et pourquoi pas le 1er, remarque en ce sens qu'il en parle. Et Yonatan, le 1er jour, il a vu, mais il n'a pas voulu en parler. Le 2e jour, il ouvre la bouche et c'est l'explosion. Yonatan lui dit tatata, il le traite de bâtard, il dit tu n'es pas mon fils. Pour oser être du côté de celui qui va prendre la royauté, si tu n'es pas mon fils, si tu étais mon fils, tu es le futur roi. Si tu es prêt à renoncer à la royauté, donc tu es forcément un bâtard. Ce qui veut dire donc que quoi ? Que aux yeux de Shaoul, c'est véritablement un sacrifice tellement grandiose que c'est absolument insupportable d'imaginer qu'un homme puisse à ce point se sacrifier, sauf si c'est un bâtard. Ce qui provient, puisque nous on connaît la vérité, que c'est pas un bâtard, donc il se sacrifie entièrement. Et il veut le tuer en lui lançant une lance. Shaoul s'enfuit, Yonatan s'enfuit avec son porteur d'armes, et il lance les flèches, 3 flèches très loin. David comprend que finalement, il doit s'enfuir. Après, qu'est-ce qui se passe ? Yonatan dit à son porteur d'armes, maintenant très bien, rentre à la maison, je vais moi-même encore rester un petit peu seul dans le champ. Le porteur d'armes sort, s'en va, Yonatan se retrouve tout seul dans le champ, David voit que ils sont tout seuls, il sort, et à ce moment-là, ils se rencontrent. Donc, ici, la Torah met en évidence que c'est absolument impossible de dire que la raison pour laquelle ils ont fait ce stratagème, c'est parce que peut-être qu'ils ne pouvaient pas se le dire, puisqu'au contraire, ils vont, oui, se parler, oui, se rencontrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas parler de la chose. Ils vont simplement se mettre à pleurer, parce que le dialogue, c'était les flèches. Ils se parlent par les flèches, et ici, il y a un mystère absolument incroyable. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas se parler qu'il envoie les flèches, parce que de toute façon, pourquoi pas 3, pourquoi 3 et pourquoi pas 1 ? Et en plus, c'est que oui, ils vont se parler. Regardez ce qui se passe. Je saute. C'est une histoire mamache incroyable. Ça fait partie vraiment des secrets absolument incroyables de la Torah. Voilà. Donc, je reviens au passage où il demande à son porteur d'âme de partir. Vaïten Yonatan et Kelavel Anahar, après avoir lancé les 3 flèches très loin, Yonatan dit à son porteur d'armes, retourne à la maison, et il attend de voir qu'il est au loin. Et quand David voit ça, il sort de sa cachette. Et là, ce qui est dit, il s'avance vers Yonatan en se prosternant 3 fois devant Yonatan. Nos maîtres disent, c'est à ce moment-là que Yehuda a fait son tikkun, lui qui refusait les rêves de Yosef de se prosterner devant lui. Que c'est beau la Torah, que c'est beau. Allez, on peut le redire une fois de plus. Merci Hachem de nous avoir fait juifs. Merci Hachem de nous avoir transmis à nous, ton peuple, les clés uniques de la compréhension de ta Torah. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle est profonde la Torah ? Et qu'est-ce que malheureusement on en a fait quand on n'en a pas les, quand on n'a pas les clés ? Et donc il se prosterne 3 fois. On comprend pourquoi il se prosterne. Ça fait des siècles que le maître du monde attendait ce moment. Quand Yehuda va-t-il accepter de reconnaître qu'il doit tout à Yosef ? David, lui, reconnaît. Merci Jonathan, merci Yosef. Tu as accepté de me donner les trois gouttes, trois flèches. Tu as accepté de me les donner les trois gouttes. Je reconnais ta grandeur en tant que celui qui inspire la royauté d'Israël, Machiar ben Yosef. Je me prosterne trois fois devant toi. Chaque prosternation on dit ? Chaque prosternation par rapport à une des trois gouttes que j'ai reçues, grâce aux trois flèches. On continue. Et donc, il arrive jusqu'à lui, et ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, ils savent que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Ils ne se parlent pas, tout a déjà été dit avec les flèches. Vaïfku ish et reu, et ils ont pleuré l'un dans les bras de l'autre, ad David igdil, au point que les cris et les pleurs de David ont dépassé les pleurs de Jonathan. Ça, c'est la lecture littérale. Mais ad David igdil, jusqu'à ce que David dépasse Jonathan. La dimension féminine a dépassé la dimension masculine. C'est ce que Jonathan savait. Il sait pourquoi il s'est sacrifié. Il voulait en arriver là. Il a tenu David dans les bras jusqu'à ce qu'il soit sûr que David monte. À David igdil. Et quand Jonathan a senti que David l'avait dépassé, mon frère, c'est fini. On se reverra à la fin de l'histoire. Machiar ben Yosef, Machiar ben David. Voilà ce qui se cache dans cette histoire. On commence à peine à la décoder. On continue maintenant. Rentrons maintenant dans le secret, le mystère de Rosh Chodesh. Et dans le mystère des deux jours de Rosh Chodesh, et tenez-vous bien. Vous savez que le Rosh Chodesh, c'est un ou deux jours, tout simplement parce que soit le mois qui précède à 29 jours, soit le mois qui précède à 30 jours. Il n'y a que deux possibilités pour un mois lunaire, soit 29 jours, soit 30 jours. C'est bien sûr, bien qu'on n'a pas besoin d'eux, mais c'est confirmé, bien sûr, par la science depuis fort longtemps. Un mois lunaire n'a que 29 ou 30 jours. Nous, ça fait des millénaires qu'on le sait, puisque Rosh Chodesh existe depuis la sortie d'Égypte. C'est d'ailleurs la première mitzvah qui nous a été donnée, avant même de sortir d'Égypte. Et donc, c'est pour ça que soit on fait un seul jour de Rosh Chodesh, soit deux jours de Rosh Chodesh. Ce qui signifie, quand on fait un jour de Rosh Chodesh, ce qui veut dire que le mois qui précède n'avait que 29 jours, et il est appelé Chodesh Chaser, un mois manquant, il lui manque encore un jour, et quand on fait deux jours de Rosh Chodesh, c'est parce que le mois précédent a 30 jours, et il est appelé Chodesh Malé, un mois plein. Ce qui veut dire, première constatation, d'après l'appellation elle-même, que normalement, un mois véritable devrait avoir 30 jours, mais quand il n'en a que 29, qui est au moins une fois sur deux, globalement, très très globalement, c'est pas aussi mathématique que je le dis, mais c'est plus ou moins 1 sur 2, une fois 30, une fois 29. Mais quand il n'a que 29 jours, il est appelé chaser. C'est pas son état normal. L'état normal, c'est en vérité 30 jours, qui est représenté par deux jours de Rosh Chodesh. Écoutez bien. Vous savez comment s'appelle un Rosh Chodesh d'un mois de 30 jours, c'est-à-dire quand on fait deux jours de Rosh Chodesh, tenez-vous bien, ça s'appelle un Chodesh Meoubar, un mois fécondé. Meouberet, une femme enceinte. Bien. Pourquoi un mois de 30 jours est-il appelé un mois fécondé, un mois enceinte ? Qui dit fécondation, c'est qu'il y a une union entre masculin et féminin. Tiens, on commence à comprendre pourquoi maintenant David choisit pour faire son test un mois où il y aura 30 jours, deux jours de Rosh Chodesh, et c'est précisément le deuxième jour de Rosh Chodesh que Shaoul explose. Et ce jour-là est appelé Chodesh Ameubar, Yom Ha'Ibur, le jour de la fécondation. Et maintenant on revient sur le texte. Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'en hébreu, le génie de notre langue, des mots ont parfois des significations et des traductions qui sont très différentes, voire même des fois à l'extrême opposé l'une de l'autre. L'un des cas, c'est le fameux mot « pakod »,« venifka deti ». David utilise le mot « venifka deti » dans son premier sens, « on remarquera mon absence ». Et c'est pour ça qu'il utilise le langage de « peut-être », car peut-être que Shaoul ne remarquera pas mon absence, ça sera donc une preuve qu'il ne me haït pas. puisqu'il ne cherche, il ne me veut pas de mal. Mais Jonathan utilise le même mot dans son autre sens, qui veut dire comment? Comment qu'on appelle une femme fécondée?
Beyom
Pkouda. Le jour de l'union où la femme est fécondée, ça s'appelle Pkouda. La fécondation d'une femme s'appelle une Pkouda. C'est intéressant, le même mot dans des traductions est opposé. L'un c'est un vide, une absence, et l'autre c'est au contraire un remplissage. On remplit, on donne quelque chose. Pourquoi? Je ne peux pas expliquer aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, David et Jonathan utilisent le même mot d'une manière différente. David l'utilise au premier sens, mon absence, et Jonathan reprend le même mot, mais lui avec une certitude. Je vous ai montré que David avait dit peut-être, et lui dit c'est sûr, parce qu'il ne parle pas de la même chose. Jonathan répond à David, mais moi, je sais très bien que toi étant lunaire, toi étant féminin, le jour de Rosh Chodesh, c'est le jour où les âmes féminines sont fécondées, où l'âme de la royauté reçoit ses trois gouttes. Mais pas toujours, seulement quand il y a 30 jours, on va voir pourquoi. Donc il lui répond, je sais que pour toi David, ce Rosh Chodesh est très important. Je comprends pourquoi tu as choisi ce jour pour tester mon père. Parce que c'est un jour où toi, le futur roi d'Israël, tu vas recevoir des forces extraordinaires. Et il lui dit, le fameux verset qu'on n'a pas traduit, « Veshilashta tered me'od » Veshilashta, les trois gouttes de la fécondation vont descendre énormément en toi. Je suis sûr que ce Rosh Chodesh va être le jour où tu vas recevoir définitivement les trois gouttes de la fécondation. Tu vas devenir ce jour-là le futur roi d'Israël. Veshilashta tered me'od. Les trois gouttes vont rentrer en toi parce que c'est moi qui vais te les donner. Comment? Parce que c'est le jour où je vais signer mon arrêt de mort. Je me sacrifie. J'ai fini ma mission. C'est ça le saut des trois flèches. Pourquoi pas trois? Pourquoi pas deux? Mais j'explique plus. Regardez maintenant. Le Hari HaKadosh révèle quelque chose d'absolument incroyable. Pas sur ce passage-là, mais dans d'autres endroits. Ainsi que le Zohar aussi. Un mois de 30 jours est appelé un mois enceinte, un mois fécondé. Ce qui veut dire que la lune, à ce moment-là, est fécondée. La dimension féminine est fécondée, la malchoute est fécondée, les âmes féminines sont fécondées. Nos commentaires disent, vous savez qu'il y a une vieille tradition, pas tellement à l'usage, qui dit que les femmes ne travaillent pas le jour de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh est le Yom Tov de la féminité. Les femmes ne travaillent pas ce jour-là. Parce que c'est le jour où la féminité est fécondée. Et donc elles ne travaillent pas ce jour-là. Extraordinaire. C'est rapporté ici, sur ce passage-là. On continue maintenant. Un mois, 29 jours ou 30 jours. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Hachem a dit à la lune, va te diminuer. Ça veut dire, ah, t'as ouvert la bouche. Eh bien, sache que de nombreuses fois, tu n'auras que 29 jours dans ton mois. Il va t'en manquer. Et tu vas être appelé un Chodesh Chaser, un mois qui manque. Il te manque le dernier jour qui va te permettre d'avoir 30 jours. Donc quand on a un mois de 30 jours, c'est un mois très important. Pourquoi? Les deux jours de Rosh Chodesh prouvent qu'à ce moment-là, les gouttes sont en train de se déverser dans la matrice féminine, traduit en français que la malchoute d'Israël est en train de se reconstruire, traduit encore plus en français que nous avançons vers la délivrance finale. Un jour très important. C'est ce que Jonathan dit, « Venifkadeta, tu vas être ensemencé ce jour-là. » C'est ça qu'il ne dit pas peut-être, parce qu'il ne parle pas de la même chose. Veshilashtab tered me'od, les trois gouttes vont descendre en toi. Les trois fameuses flèches. Mais je n'ai pas fini d'expliquer. 30 jours, disent nos maîtres, quand c'est un mois qui est fécondé. Pourquoi 30? Parce que le 30 fait allusion à 3 fois 10. Et le 10 fait allusion à un yud. Et le yud fait allusion à une goutte. Bien sûr. Le yud a la forme d'une goutte, comme on le sait tous. Le Yud est appelé dans le Zohar Tipat Or, une goutte de lumière, la première lettre du nom divin. Un mois de 30 jours, c'est un mois de 3 fois 10 jours, et chaque 10 jours, 10 est la valeur numérique de la lettre Yud, un mois où sont présentes les trois gouttes qui descendent du masculin au féminin. Voilà le secret du 30. C'est pour ça que seulement ce mois-là est appelé Chodesh Malé, un chodesh entier, parce que les trois gouttes qui permettent à la féminité d'être ensemencée sont présentes. Les trois cerveaux que Jonathan possède et qu'il décide de donner maintenant à David. Et il dit à David, mon frère, je sais que j'ai fini ma vie à partir de ce Rosh Chodesh-là, mais je te donne les trois gouttes. Je tirerai trois flèches. Pourquoi les flèches représentent les trois gouttes? Ça, on en parlera en son temps, plus aujourd'hui. Mais les trois flèches, la question était, le signe aurait été tout à fait convaincant avec une seule flèche, très loin ou pas assez. Trois. Les trois gouttes font les trois flèches font allusion aux trois gouttes que l'âme de Jonathan va déverser en se sacrifiant dans l'âme de David. Il lui envoie les trois flèches. On verra, je consacrerai Bezrat Hashem bientôt un cours à cette notion de flèche dans la fameuse louange que David va adresser à Jonathan, comme on verra. Mais pour l'instant, contentons-nous de comprendre la raison pour laquelle il envoie les trois flèches. Et maintenant, regardez, et on termine pratiquement le cours. Comment s'écrit David? David s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Ce jour-là, David a reçu les trois flèches, les trois yud, les trois gouttes de lumière de la part de Jonathan. Jonathan a fait le tikkun de la lutte entre les frères et David aussi. Puisque David se prosterne après devant son frère et il reconnaît la grandeur de Jonathan. Sans toi, je ne suis rien. Les trois gouttes, je les ai reçues de toi. Tu t'es sacrifié pour moi. Très bien. Maintenant, regardez. Le nom David est un nom extraordinaire. C'est un dalet, un vav et un dalet. Très sincèrement et sans vouloir paraître, on peut dire, n'importe. Que le maître du monde nous pardonne de révéler des secrets comme ça et les jeter à tout vent alors qu'ils vont être récupérés par n'importe qui et n'importe comment. Mais on n'a pas le choix parce qu'au moins ceux qui méritent de l'entendre l'entendront. Et tant pis pour tous ceux qui en France qui voudront en faire. Je vais te faire la parenthèse. David reçoit ce jour-là trois youds. Si vous prenez les trois youds, qui sont les fameuses trois gouttes, et vous les ajoutez au mot David, vous mettez un youd au début. Et il vous reste deux youds que vous mettez dans les dalettes, et vous avez le nom divin Yudke Vavke. Parce qu'un hé, c'est un dalet avec un youd en bas, on l'a déjà montré. Ce qui veut dire que David, en recevant les trois youds de Jonathan, son nom se transforme de David à Havaïe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le nom se transforme en nom divin. Puisque un youd au tout début, et les deux autres youds sont mis dans les deux dalettes, et les deux dalettes se transforment en hé, et avec le vav au milieu, youd, hé, vav, hé. Le nom de David devient le nom divin. Le Shem et Fourash. J'ouvre juste une parenthèse, mais je ne peux pas en dire plus. D'accord. Mais c'est une graine qui fera son chemin. Quand on la plante dans la terre, pour l'instant, on ne voit rien. Donc volontairement, je ne veux pas expliquer. C'est entre autres là l'origine de cette falsification, de ce mensonge inimaginable que le monde subit depuis 2000 ans d'un Messie Dieu. Parce que justement, il s'enracine dans ce secret-là, mais falsifié, déformé, perverti par la religion du mensonge. Comme on le sait, les fondateurs de ce mensonge étaient des juifs qui ont étudié énormément la Torah. Ils connaissaient beaucoup des secrets de la Torah. Seulement, ils n'ont pas fait attention. Ils ne se sont pas donné la peine de les comprendre comme on devait les comprendre. Et ils en ont fait ce que c'est devenu. Mais le Shoresh est là. Ce que je dis n'a jamais, 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 jamais été dévoilé jusqu'à aujourd'hui. Si nous le dévoilons aujourd'hui, c'est parce qu'on est très très proche de la délivrance finale. Et que tout se dévoile maintenant. Mais nos maîtres connaissaient ce secret depuis fort longtemps. Quelle était l'origine de cette aberration d'un homme Dieu? C'est ici. Une falsification d'une notion qui est juste, mais qui a été falsifiée par les charlatans. Et j'explique. Le nom de David se transforme en nom divin, les fameuses trois gouttes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'avais peur de le dévoiler, parce que je sais ce que beaucoup vont en faire, Ah, vous voyez, ils l'ont dit eux-mêmes. Continuez à vous mentir à vous-même, c'est pas grave. De toute façon, la vérité fait son chemin, et le jour où on aura aussi la force de la faire véritablement entendre dans le monde entier, tous les mensonges s'écrouleront, il ne restera que la vérité vraie, qui est la Torah d'Israël. Je reviens maintenant à ce que j'explique. Le nom de David se transforme en Shem Havayé. Ça veut dire quoi? C'est quoi le décodage juif et réel? C'est quoi? C'est que comme vous le savez, maintenant qu'ils l'entendent eux aussi, si ça peut les aider à se guérir. Vous savez que nous ne prononçons pas le nom divin tel qu'il se prononce. Havayé, nous le prononçons Adonai. Mais ce n'est pas du tout ce qui est marqué. Puisqu'on change. Havayé devrait se prononcer comme les témoins de Géo. Et nous, on change et on dit Adonai. C'est-à-dire qu'on appose de nouvelles lettres. Un Dalet qui n'est pas, etc. Et pourquoi? Parce que nous ne prononçons pas le nom divin tel qu'il s'écrit. Et pourquoi? Parce que pour l'instant, le nom divin ne s'est pas encore dévoilé sur terre. Et par pudeur, par humilité, par souci de vérité, nous nous refusons de prononcer des choses qui font allusion à des notions qui n'existent pas encore. Pour l'instant, le nom divin est dans le ciel, il ne s'est pas encore dévoilé sur terre. Et qui doit dévoiler le nom sur terre? Celui qui est le miroir du nom sur terre. Le roi d'Israël, David. Et donc, à partir du moment où David se positionne comme miroir du nom divin, le nom divin se reflète sur terre. Ce n'est pas David qui devient Dieu, mais c'est David qui devient le miroir de Dieu. Là est la falsification, là est l'horreur, là est l'abomination. Là est la déviation de la vérité d'Israël. Oui, le Messie est le miroir de Dieu. Mais entre être un miroir et être lui-même, vous imaginez un homme qui voit sa femme dans le miroir, il la trouve belle et il se met à embrasser le miroir. Voilà ce qu'ils font depuis 2000 ans. Je préfère largement embrasser ma femme que son miroir. Ça, c'est clair. Évidemment. Voilà à quoi ressemble cette religion du miroir. Amoureux d'un miroir. Et donc, la subtilité repose sur un cheveu. Mais ce un cheveu, c'est 2000 ans de souffrance pour nous. Et de catastrophe pour l'humanité. On ferme la parenthèse. Donc David devient le miroir du divin à partir du moment où il reçoit les trois yuds, les trois gouttes, et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le nom divin se dévoile dans son propre nom, David se transforme en Havayé. Et regardez maintenant, comme tout était déjà dit, dans le nom de Yonatan. Comment s'écrit Yonatan, mes amis, mes frères? Yud, Ke, Vav, Nathan. Les trois premières lettres du nom divin, les trois premières lettres du nom divin, terminées par Nathan. Yonatan est celui qui a donné les trois gouttes à David. Yonatan. Nathan, il a donné, et il a donné les trois premières lettres du nom divin qui sont le Yud, Ke et Vav, c'est-à-dire effectivement, il a donné un yud, et il a donné un hé, puisqu'en donnant les yud, il a transformé le dalet en hé. Il y en a deux, et le vav, c'est l'autre lettre du nom divin. Ça fait allusion à ce que c'est lui qui est Nathan, c'est lui qui a donné à David le nom divin. Il a joué son rôle. Et c'est pour ça que à David Igdil, que David en a pleuré de rencontrer dans sa vie, un homme qui a tout donné, qui s'est sacrifié pour que la malchoute d'Israël puisse exister. Yonatan a été le premier véritable homme sur terre. Qu'est-ce que c'est un homme? Celui qui est capable de donner en sachant qu'il ne récupérera rien. Mais il aura permis à l'autre d'exister. Ça c'est l'âme. Ça c'est l'homme à Batrina. Dans un cours de Toubishvat, c'est un cours extrêmement symbolique. Je vous nous pardonne. Pour tous les secrets qui ont été révélés aujourd'hui, d'autant plus que, comme on le sait, on sait à quel point ces secrets continuent, ont déjà et continuent et continueront malgré tout à être exploités par le mensonge. Mais que Hachem nous protège, qu'il nous pardonne de dévoiler à ce point et de jeter à tout vent les secrets les plus profonds de notre Torah. Mais en même temps, on peut lui dire merci. Merci parce que c'est la preuve qu'on est la génération de la délivrance. Et merci parce que c'est la preuve qu'un jour, comme Toubishvat qui a eu le mérite de tels dévoilements, prouve que nos jours saints ne sont pas des jours conventionnels, mais des jours où il y a un rayonnement très particulier. parce que je suis persuadé que ce cours-là, je n'aurais pas pu le faire un autre jour. Tous les incidents techniques qu'on a eus ces derniers jours, c'est parce que je préparais ce cours et que je savais, mais je ne voulais pas le dire jusqu'à ce qu'il sorte, que tous ces trucs fous qu'on avait sur l'ordinateur étaient liés à ce qui allait se dévoiler. Et donc on peut dire merci au maître du monde que la chose a pu se faire et que maintenant que la graine fasse son chemin et que tous les hommes ouvrent les yeux et puissent revenir à la Torah d'Israël. Amen.